Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lefebvre et vous écoutez une série de balados où on s'entretient avec plusieurs professionnels qui gravitent autour du monde de l'aide juridique. C'est pas personnellement un univers que je connais profondément, mais c'est justement ça l'objectif, de démystifier avec eux, pour vous, c'est quoi leur rôle puis à quoi ça ressemble leur quotidien. Aujourd'hui, on est avec Maître Marie-Ève Bérardino. Merci d'être avec nous.
Merci, ça fait plaisir.
Pour commencer, j'aimerais peut-être que tu nous expliques un petit peu c'est quoi ton rôle à l'aide juridique.
Oui, donc moi, j'ai la chance d'avoir un poste de procureur aux enfants. Donc, mon travail consiste à les représenter à la cour dans les dossiers de protection de la jeunesse.
Quand tu as fait tes études en droit, est-ce que tu savais que c'était dans ce créneau-là que tu voulais te lancer?
En fait, c'est une excellente question, puisque, en fait, moi, je savais que j'aimais vraiment beaucoup les enfants. J'avais été clown, éducatrice en CPE, animatrice de camp de jour. Et je voulais, en fait, faire en sorte, dans ma carrière, que les enfants des pays sous-développés puissent avoir accès aux médicaments. Donc, j'avais étudié, j'ai fait un bac en droit. J'ai fait par la suite une maîtrise en biologie moléculaire. Okay. J'ai fait une maîtrise en droit avec un volet à commerce international. Donc, j'étais allée vraiment me spécialiser. Et j'ai fait mon stage, toutefois, à l'aide juridique en protection de la jeunesse. Et en fait, je n'ai jamais quitté par la suite l'aide juridique. Donc, c'était vraiment, j'étais une grande passionnée de ce que je fais. Et d'être au premier plan avec les enfants au quotidien sur le terrain, ça a été complètement révélateur pour moi. Et voilà, j'aime énormément ce que je fais.
Qu'est-ce qui est spécifique du droit de la jeunesse?
Donc, en fait, si je me permets de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le système en soi. Donc, lorsque le directeur de la protection de la jeunesse, donc le DPJ, saisit la cour, donc veut prendre une mesure à l'égard d'un enfant, donc il transmet une procédure à la cour et au même moment, il transmet la même procédure à mon bureau pour faire en sorte qu'un avocat indépendant puisse analyser ce qui se présente et voir au respect des droits de cet enfant-là. Donc, ça assure une juste proportionnalité dans le système, mais également de faire valoir que l'enfant puisse nommer ses désirs, ses intérêts via un avocat. Donc moi, lorsque je rencontre mes enfants, je les rencontre aux alentours de 7 ans, dépendamment là, des caractéristiques propres d'un enfant. Est-ce que je leur nomme que je suis un peu comme un micro? Donc, pour que cet enfant-là ne soit pas à la cour en train de lever la main et dire « moi, je voudrais ci, je voudrais ça », donc je leur dis « tu le nommes à Marie-Ève » et moi, par la suite, je vais l'exprimer. Je vais l'exprimer au tribunal pour toi. Donc, c'est, à mon sens, là, c'est vraiment ce qui permet de s'assurer que l'enfant, sans aucun autre filtre ou la perception de la protection de la jeunesse, puisse être rendue au tribunal.
À quoi ça ressemble le déroulement d'une journée pour quelqu'un qui travaille à la jeunesse?
Oui. Donc, en fait, il y a somme toute, deux types de dossiers. Donc, en fait, lorsque le dossier commence, on appelle ça les mesures provisoires. Donc, lorsqu'il y a un risque de tort sérieux pour les enfants, le directeur peut demander de placer l'enfant. Donc, soit dans une famille d'accueil ou un centre de réadaptation ou dans sa famille élargie. Donc, les gens dans son AMEL, nous, une famille d'accueil de proximité. Donc, dans ce cadre-là, je vais rencontrer les enfants et puis je vais évaluer s'il y a un risque de tort sérieux, s'ils reconnaissent ce qui est exposé à la procédure et si, par la suite, les mesures qui sont proposées correspondent au désir et à l'intérêt de l'enfant. Donc, je vais m'assurer, dans un premier temps, de voir est-ce qu'on a fait le tour de toutes les personnes significatives qui gravitent autour de l'enfant pour être certain qu'on n'a pas oublié une personne qui pourrait faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans une famille d'accueil du système, mais bien avec des gens qui nous sont chers. Donc ça, c'est le premier exercice que je vais faire avec eux.
Et ça doit demander quand même une collaboration de la famille élargie aussi, ça veut dire à ce niveau-là. Ça, est-ce que c'est toi qui... hands-on en train de contacter les différents membres?
Oui, bien souvent, je vais arriver avec la proposition de l'enfant, je vais aller la présenter aux parents, qui souvent sont représentés par avocat, et via ceux-ci, je vais entrer en communication, je vais obtenir les coordonnées, et oui, je vais faire les démarches, je vais appeler les oncles, les tantes, parfois même les parents de leurs amis à l'école, donc on essaie d'être créatif, puis souvent, bien, c'est peut-être là la limite, le directeur va peut-être pas aller jusqu'à... donc nous, on peut se permettre d'aller peut-être un petit peu plus loin. Et on a souvent de très beaux succès. Là, et les enfants, ça leur permet là, de vivre ça peut-être de manière plus graduelle, le fait de quitter leur domicile familial.
OK. Bien, en effet, Marie-Ève, tu parlais beaucoup à partir de 7 ans que tu peux être en contact, mm-hmm. Ça devient un peu vraiment tes clients à ce moment-là. Qu'est-ce qui arrive quand que c'est avant ça puis qu'ils ont un besoin d'avoir un soutien par le droit?
Oui. Donc, en fait, faire un cours... cour de droit. Donc, en fait, il y a deux types de mandats. Donc, il y a le mandat conventionnel. Donc, ça, c'est quand n'importe qui, là, qui est en capacité de mandater. Donc, vous, si vous allez voir un avocat, vous allez lui donner un mandat. Il y aura un mandat conventionnel et l'avocat va aller exécuter le mandat que vous lui confiez. Lorsque, en bas de 7 ans, on parle de mandat légal. Donc, l'enfant n'est pas en mesure de me nommer ses désirs et ses intérêts, mais également sa compréhension de la situation. Parce que le mandat est aussi en regard à la capacité de l'enfant à comprendre ce qui se passe. Et donc, à ce moment-là, c'est moi, Marie-Ève, avec ma tête et ma perception de la situation qui va établir le mandat. Et c'est donc pas l'enfant qui va me dicter quoi faire, mais plutôt moi comme avocate. Donc, il y a deux types de mandats là, dans ma pratique à moi. Et un des premiers aspects que je dois établir dans un dossier, c'est donc, est-ce que je suis en mandat légal? Donc, l'enfant est ou en mandat conventionnel? Donc, est-ce que l'enfant il est capable de me mandater? Ou sinon, je suis en mandat légal et c'est moi, Marie-Ève, qui nomme les choses.
Ça doit être difficile des fois de faire comme « Ah, je pense que tu aurais vraiment besoin de ça, mais là, en ce moment, je sais que tu veux ça, donc je le ferai pas. »
Exactement. Par exemple, un enfant ou, par exemple, maman a des enjeux de consommation, mais il continue à vouloir aller chez maman. Donc, moi, je vais nommer le désir. En fait, mon travail, je pense qu'à ce moment-là, je le vois plus comme de nommer le désir de l'enfant, de s'assurer que l'enfant, lui, ce qu'il souhaite, soit adressé au tribunal. Et dans mon contre-interrogatoire, par exemple, je ne vais pas adresser mon contre-interrogatoire de maman de la même manière que si j'étais en mandat légal et que je souhaitais déplacer cet enfant. Hein, je serais beaucoup plus douce et beaucoup plus délicate dans ma manière de faire ressortir des enjeux. Et à ce moment-là, le devoir de protection appartiendra au directeur de la protection de la jeunesse.
Je ne connais pas grand-chose à la DPJ. C'est quoi la relation que toi, t'entretiens avec cette institution-là au niveau, justement, au niveau professionnel, là?
Bien, je vous dirais, mon travail, en fait, dans un premier temps, c'est de m'assurer que les droits des enfants sont respectés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi que les droits des enfants sont respectés? Ça veut dire, premièrement, que le DPJ, c'est une loi d'exception. Ça veut donc dire que c'est exceptionnel qu'il soit dans la vie d'un enfant. Donc, mon travail, c'est de m'assurer qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Je vous dirais, avec tout respect que j'ai pour le directeur, ils sont surchargés. Ils sont surchargés, le nombre de cas qu'ils ont à étudier fait en sorte que parfois, ils peuvent couper les coins ronds. Donc, en fait, mon travail, c'est un peu de vérifier s'ils font bien leur travail. Donc, comme toute personne qui s'assure que d'autres personnes font leur travail, des fois, les relations peuvent être un peu plus tendues.
Oui, j'imagine.
Ensuite, mon travail, c'est aussi de m'assurer que, notamment là, les services qu'on va faire aux familles et aux parents, ils sont de qualité. Hein, que les enfants reçoivent au bon moment les bons services, également qu'ils soient traités avec respect, avec dignité. Donc, c'est certain que, je voudrais que les rapports sont cordiaux, parce que notamment dans des régions comme par ici, nous, l'aide juridique de Joliette, on est toujours en interaction avec les mêmes procureurs. Donc, ça se veut et ça se doit d'être respectueux. Mais naturellement, c'est certain que parfois, c'est mon travail de voir et de nommer que les droits n'ont pas été respectés, que les enfants ont pu vivre des lésions de droits, que les services ne se sont pas présentés au bon moment. Et il faut comprendre quand même que, je vais le nommer comme ça, c'est peut-être pas toujours écrit noir sur blanc dans leur rapport. Donc, mon travail, j'ai aussi un peu un travail d'enquête en arrière ça, parce que, naturellement, ils ne vont pas écrire « je n'ai pas bien fait mon travail » dans leur rapport. Donc, c'est certain que de mettre ça à l'avant-plan, ça peut parfois alimenter des relations de travail qui sont peut-être un peu plus difficiles. Mais je considère là, qu'ici, nous, avec le directeur de la Naudière, il y a une belle reconnaissance des situations qui sont un peu plus complexes. Et on trouve souvent là, une voie de passage là, qui permet des projets d'entente plutôt que des procès de longue durée.
Puis, comment tu le vis? C'est quoi les enjeux que tu as au day-to-day face au fait d'avoir cette clientèle-là qui est peut-être un peu plus vulnérable?
Excellente question. Au niveau des enjeux, je ne pense pas que quand on est à l'aide juridique, on fait le choix de desservir cette clientèle. J'ai antérieurement là, fait plusieurs années en droit criminel où je desservais une clientèle avec des enjeux de santé mentale, de l'itinérance et qui commettait des délits. Donc, c'est certain que je vous dirais qu'il peut avoir une fatigue de compassion qui peut s'installer là, quand même avec le temps, puisqu'on nous naviguons toujours dans des grandes difficultés humaines. Donc, on est constamment... on ramène à la maison un peu là, cette vision que certains enfants peuvent vivre qu'on peut même pas s'imaginer que ça existe encore aujourd'hui. Donc, oui, c'est certain que ça demande... ça demande de prendre un pas de recul, d'essayer de mettre quand même une certaine barrière dans notre quotidien aussi. Et puis, je vous dirais que c'est un travail qui pourrait être sans fin. Donc, il faut savoir mettre nos propres limites là, dans le travail qu'on y met, parce qu'on pourrait faire ça soir, journée, fin de semaine, vacances. Je vous dirais il faut faire attention. Il faut faire attention à se maintenir dans un sain état d'esprit et de trouver des moments de quiétude quand même à travers tout ça, parce que c'est pas facile. C'est une pratique qui est pas facile là, de soutenir ces enfants-là dans leur quotidien, puis de recevoir leur tristesse. Hein, donc, de sortir, d'accompagner, de nommer un enfant qu'il va quitter sa famille. Même s'il vit des choses difficiles à sa maison, ça reste sa famille. Ça reste ce qu'il connaît. Et ce que je nomme souvent à mes enfants, c'est qu'à mes clients, Marie-Ève, elle porte une robe noire, comme on peut penser à un magicien. Mais je ne fais pas de magie. Donc, ton désir, je vais faire tout mon possible pour qu'on puisse voir à ce qu'il se réalise. Mais ton désir n'est peut-être pas nécessairement équivalent à ton intérêt. Donc, c'est difficile aussi de ne pas pouvoir complètement satisfaire ce que mon client me donnerait comme mandat à la base. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à travailler. Mais bon, à la longue, on finit par se faire une petite carapace quand même là, pour être capable de se maintenir dans ce système. Exact.
S'il y avait des personnes qui voulaient justement aller en droit de la jeunesse, qu'est-ce que tu penses que ça prend pour faire ce travail-là? Puis peut-être parallèlement à ça, qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir avant d'embarquer là-dedans?
Je vous dirais que, avec toute humilité, je pense que ça serait très intéressant qu'il y ait une formation complémentaire. Plus au niveau des services sociaux, de travail social. J'ai une collègue là, qui a un bac en travail social puis un bac en droit, et j'estime énormément son parcours académique. Et ça, on l'a pas, ce parcours-là. Donc, on l'apprend un peu sur l'intérêt de l'enfance, et c'est un peu notre perception personnelle que l'on a des intérêts des enfants, de leur développement. Donc, je vous dirais que ça, c'est quelque chose que je pense qui pourrait être développé. Ensuite, je dirais que ce qu'il faut avoir, c'est aussi aimer les enfants, les aimer fondamentalement. Parce que d'avoir cette clientèle-là, c'est une clientèle qui n'est pas facile non plus à côtoyer. Ils sont très agréables, mais je pense que d'avoir... ça doit être réellement une passion. Je pense pas qu'on fait ce type de droit en dépit. Je pense qu'on doit s'investir fondamentalement, et je pense que c'est comme ça que résultent les meilleurs procureurs d'enfants.
Overall, si tu continues à le faire, ça, est-ce que ça t'apporte quand même quelque chose, toi, personnellement, de faire ce travail-là?
Ah, assurément, parce que avoir gain pour un enfant, puis de l'appeler, puis de dire « on a gagné », moi, je suis une avocate qui est extrêmement accessible. J'ai mon cellulaire personnel, tous mes clients l'ont. J'ai complètement dépassé la limite qu'ils me textent. Ben, parce qu'en fait, les adolescents, laisser le message dans la boîte vocale, puis le délai, c'est dans l'immédiateté. Quand ils te textent, ils vivent une situation, ils veulent te rejoindre maintenant. Et c'était ma façon à moi d'offrir le meilleur service, en fait, pour ma clientèle. Donc, avoir gain de cause, puis de voir le regard de l'enfant qui a gagné dans le système, c'est extrêmement valorisant. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit, en fait, qui m'alimente sur le fait de poursuivre dans ce sens, parce que, en fait, ben, tout le monde aime gagner, là, on va se le dire. Quand on joue aux cartes, quand on joue au Monopoly, quand on joue à n'importe quoi, on aime. Puis le faire et de voir que ça a un impact direct, puis d'être capable de faire ressortir la vérité. Donc ça, c'est quelque chose aussi dans lequel je suis très fière. De faire des lésions de droit et que le directeur les reconnaisse. Que finalement, ce qui était écrit, c'était pas tout à fait ce qui était l'état de fait. Mais que si j'avais pas été là, puis que j'avais pas fait mon travail d'enquête, ben ça, c'est pas ça que le tribunal aurait su. Donc ça, c'est quelque chose qui me valorise énormément, de voir que finalement, ce qui est dans le meilleur intérêt de mes clients, ben c'est ça qui est ordonné.
Pour la jeunesse, il y a aussi un système tout autour avec des organismes communautaires. Est-ce qu'il y a un lien étroit entre le droit et l'avocate à la jeunesse à l'aide juridique et ces organismes-là?
En fait, je vous dirais, à la base, à mon égard, je considère que la mission de l'aide juridique, c'est oui, de desservir la clientèle, mais également de s'impliquer auprès des organismes communautaires. Donc, les organismes communautaires ont des grands besoins de soutien juridique au niveau administratif, au niveau de corporatif. Ils ont besoin d'implication souvent d'avocats au niveau des conseils d'administration. Donc, Moi, je m'en fais une mission personnelle depuis des années. Et à ce titre, là, je me suis investie avec une équipe là, à Manawan. Et j'ai créé le premier centre de pédiatrie sociale du Dr Julien en communauté. Ça fait 8 ans de ça, maintenant qu'il existe. J'ai travaillé auprès de conseil d'administration de l'Institut Pinel de Montréal. Par la suite, auprès du Barreau. Donc, je pense que...
La mission est plus grosse.
Elle est beaucoup plus grande et j'aimerais bien que ça soit partagé puis que, en fait, les gens s'investissent davantage. Oui, les gens de l'aide juridique, mais également les avocats de la pratique en général. Donc, de voir un petit peu la chance que nous, on a comme avocats d'avoir cette qualité de vie, mais de penser que derrière, là, il y a d'autres clientèles qui sont supportées par des organismes communautaires qui, eux, avec des très petits budgets, font des miracles. Donc, je pense...
Et pallient à d'autres besoins.
Exactement. Aussi. Donc, ils ont besoin de soutien juridique. Ils ont besoin d'être éclairés dans la gouverne. Et je pense que c'est la mission des avocats de soutenir ces avocats-là, particulièrement les avocats de l'aide juridique, mais les avocats en général.
Génial. Ben merci beaucoup, Maître Marie-Ève Bérardino. C'est super apprécié d'avoir pris le temps de nous parler.
Ça m'a fait un grand plaisir.
Vous venez d'écouter le balado pour le Centre communautaire juridique Laurentier-de-Lanaudière. Si vous voulez en savoir plus, visitez le www.ccjll.qc.ca. Ce balado est une production des Copains du son.